Et pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau François Eckhall. Bonjour François.
Bonjour.
Fondateur du site fipeco.fr. Face à vous, Ryan Nézard, professeur à Sciences Po. Bonjour Ryan.
Bonjour.
Bienvenue sur le plateau. Et Nathalie Janson, qui devrait nous rejoindre d'une minute à l'autre, qui doit être prise dans les bouchons. On l'attend. Allez, je voulais qu'on commence par ce débat. Ce matin, c'est la course à ou c'est pas ma faute en quelque sorte. Hein. L'État dit que c'était aux communes de gérer les écoles primaires, aux départements de gérer les écoles, aux régions de gérer les lycées, les hôpitaux sous tension. C'est pareil, ça reste très compliqué. Tout le monde se renvoie la responsabilité, mais j'ai posé une question simple. Hein. Qui n'a pas fait son travail ? La semaine dernière, ça a été dantesque quand même. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans, qu'on nous parle de réchauffement climatique et on se rend compte que le roi est nu. 7% des établissements scolaires, Ryan Nézard. Vous avez travaillé en cabinet à l'éducation nationale il y a 2 ans ?
3 ans, oui.
3 ans. Est-ce qu'on parlait...
Oui.
Déjà, canicule à l'époque, il me semble qu'il y en avait.
Oui, et puis à vrai dire, c'était un des premiers dossiers dont j'ai eu à connaître. Et c'est vrai qu'il y a un défaut de planification. Donc la responsabilité, elle est collective pour moi sur ces sujets. Globalement, notre pays, si on devait résumer, est plutôt exemplaire avec l'Union européenne en matière d'atténuation du changement climatique.
Et lutte contre le réchauffement
climatique. Mais en retard sur l'adaptation à ce changement.
Ah, oui.
Et d'ailleurs, il a fallu attendre l'an dernier pour avoir enfin un plan global d'adaptation au changement.
Le PNAC, le fameux PNAC.
On a beaucoup d'acronymes. Vous épargnez l'acronyme.
La technostructure.
Si vous dites le PNAC avec 2 A. Mais en tout cas, c'est un plan qui visait à se dire comment on s'organise si en 2100, il y a 4 degrés de plus en France par rapport à 1990. Pour moi, il y a 2 points qui sont importants. Le premier, c'est que les moyens sont là. C'est pas vrai qu'on manque d'investissement public. On est aujourd'hui, si on regarde les grands pays de la zone euro, le premier grand pays de la zone euro en termes de dépenses d'investissement public. C'est 2 points de plus que l'Espagne et les Pays-Bas, 1 point de plus que l'Allemagne. Donc pour moi, la question
n'est pas... Alors pour un résultat incroyable, hein. Pardon,
j'y viens, bizarre, j'y viens. Pour moi, la question n'est pas de savoir s'il faut en mettre plus ou moins. La question est de savoir comment on dépense cet argent. Et en l'occurrence, il est mal utilisé et sans doute pas assez d'investissement entre guillemets vert,
oui,
et trop d'investissements qui sont de peut-être moins utiles au pays. Je vais vous donner peut-être 3 exemples de projets qui pour moi illustrent cette responsabilité collective. Premier exemple, c'est le fameux exemple de la gare de Nantes.
Oui.
Vous l'avez vu, inauguré en 2020.
Cité abondamment sur ce plateau la semaine dernière.
Bon, bah, pardon pour la redite, mais 3 années de travaux, 132 millions d'euros d'argent public. C'est pour ça que je disais qu'on manque pas de moyens. La question, c'est de savoir comment on les utilise. Et qui aujourd'hui est un dôme de chaleur.
Oui.
Fait 3 degrés de plus dans la gare par rapport à l'extérieur de la gare. Deuxième exemple, l'hôpital de Saint-Lô, qui a été rénové au moment du Ségur de la Santé. Mais à l'époque, certains ont jugé qu'il n'était pas utile de prévoir la climatisation parce que, je cite les réactions de l'époque et des débats qui ont pu avoir lieu, y compris au sein de l'État ou oui, entre l'État et les collectivités, parce que, je cite, les canicules sont rares. Troisième exemple, oui, la place de la République à Paris. Réaménagée il y a plus de 10 ans, en 2014, ça a coûté 24 millions d'euros que du béton.
Oui.
Il y a moins de végétalisation
minéralisée
après qu'avant les travaux. Voilà 3 exemples qui illustrent la manière dont on utilise mal l'argent public en France. Donc pour moi, la responsabilité, elle est collective. L'État doit planifier et prioriser. Les collectivités et les opérateurs doivent faire les bons choix lorsqu'ils sélectionnent des projets. On pourra revenir sur l'exemple des écoles, mais pour moi, c'est l'exemple typique de qui relève moins d'un manque d'argent public que d'un mauvais usage de cet argent public.
Bon, voilà, hein, ce que nous dit Ryan, François Eckhall, c'est il y a de l'argent et on fait n'importe quoi avec. C'est ce qui nourrit un peu le site de Fipeco assez régulièrement, d'ailleurs, le gaspillage d'argent public.
Mais je suis tout à fait d'accord. Les responsables, qui c'est ? Ben, ce sont tous les propriétaires de bâtiments publics. Et là, qu'est-ce que ça ? Eh ben, c'est les milliers de maires et de présidents de conseils généraux, départementaux, tous les élus locaux. C'est l'État, c'est les services de l'État, bien sûr. C'est les ministères pour leurs propres bâtiments, etc. C'est les directeurs des agences, comme on dit, de l'État, qui ont une certaine autonomie de gestion, qui pourraient, voilà, dans le cadre de cette autonomie. Et en effet, les moyens, ils sont là. On les a. Alors après... Aussi, ce que je voudrais dire, c'est que en France, dès qu'il y a une catastrophe, dès qu'il y a le moindre problème,
oui,
tout le monde finalement se tourne vers l'État en disant, voilà, c'est de la faute de l'État, il faut que l'État fasse quelque chose. Et l'État, la seule chose qu'il peut faire, c'est annoncer des normes ou annoncer des dépenses publiques. Et donc, depuis voilà, des dizaines et des dizaines d'années, une des causes principales de notre incapacité à contrôler nos finances publiques, elle est là. Hein. C'est que, voilà, donc là, la seule chose que l'État peut faire tout d'un coup, c'est dire, ben, je vais faire un grand plan de climatisation, j'annonce des dizaines, des centaines de millions d'euros.
Et des dizaines de milliers de clients, on ne sait pas où on va trouver Sébastien Lecornu.
On peut toujours les trouver, comme le disait Ryan, il y a 1700 milliards de dépenses publiques. Ouais. Le problème, c'est de choisir. Mais on ne sait pas choisir. Le problème, c'est qu'on ne sait pas choisir, ni au niveau de l'État, ni au niveau des collectivités locales. Donc on veut toujours faire plus, on aura. Alors qu'en fait, le risque zéro n'existe pas. C'est vrai que l'argument qui consistait à dire les canicules sont rares, il est vrai. Et on ne peut pas non plus, on ne fera jamais en sorte qu'il n'y ait aucun mort pendant les canicules. De même qu'on ne peut pas éviter qu'il y ait des morts sur la route. Chaque année, il y a des milliers de morts sur la route. Bon, voilà, il y a des milliers de morts à cause du tabac, à cause de l'alcool, sans même parler de la drogue. Le risque zéro n'existe pas, mais tout d'un coup, quand on a une catastrophe comme ça, on dit le risque zéro, ça ne doit pas exister, et donc, eh ben, il faut dépenser.
Oui, voilà, mais François, ces catastrophes, on les a maintenant à peu près chaque année quand même. Là, on en est à deuxième épisode.
On aurait pu faire mieux. C'est clair. On aurait pu climatiser. Tous les exemples qui viennent d'être donnés, en effet, montrent qu'il y a eu des dysfonctionnements partout. Mais les responsabilités sont largement partagées. Et il ne faut pas passer à l'extrême inverse, qui consiste à dire on va subventionner des clims dans tous les bâtiments de France.
C'est une question de responsabilité individuelle des dirigeants ou c'est la décentralisation qui a organisé cette désorganisation ?
Mais pour moi, c'est pas que un sujet de décentralisation. C'est globalement l'inefficience de notre organisation politique, institutionnelle en France par rapport à d'autres pays. Les canicules, on en a aujourd'hui, on en a de plus en plus. Des événements climatiques extrêmes, comme on dit.
Oui, c'est, et on va c'est en de moins en moins exceptionnel quand même.
Pardon de le dire comme ça, mais c'est la bande-annonce, là, ce qu'on est en train de vivre. Ouais. C'est la bande-annonce du 21e siècle. Ouais. Donc, il va falloir que notre pays s'y adapte, continue évidemment à l'échelle des négociations internationales, à l'échelle de ce qu'on peut faire sur l'industrie, sur l'usage de la voiture, les transports, le logement, continue évidemment à atténuer ce réchauffement climatique. Il ne faut pas opposer l'objectif de l'adaptation, notamment ces débats qu'on a eu sur la climat.
Non, c'est ça, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on a tendance à opposer les deux. Mais
c'est une très mauvaise idée.
Sur
les deux, faire évidemment les deux. Ça, c'est un bon exemple de en même temps, si je peux le dire.
Oui.
Mais donc, mon point, c'est que la responsabilité, je suis complètement d'accord avec François Eckel, elle est collective et chacun peut faire mieux à son échelle. Je vous donne un autre exemple. La ville de Paris. Alors, on a beaucoup parlé de la ville de Paris au moment des municipales la dernière fois. On en parle un peu moins aujourd'hui. Mais quand même. Cet exemple, s'agissant des écoles, est très parlant. Il y avait, il y a 15 ans, à la ville de Paris, deux fois plus d'investissements pour la rénovation des écoles qu'aujourd'hui.
Ah bon ?
Où est passé l'argent ? Il n'y a pas moins d'argent sur le budget de la ville de Paris, je vous rassure, elle dépense toujours autant. Mais l'argent est utilisé aujourd'hui pour racheter des appartements privés et les transformer en logement social. Ce qu'on appelle la politique de préemption en matière de logement.
Oui.
Alors, on est pour, on est contre, c'est pas le débat d'aujourd'hui.
Mais c'est un arbitrage
c'est mon point. L'argent, un choix a été fait par une majorité qui, par ailleurs, se dit écologiste à Paris. Mais un choix a été fait qui a été de favoriser la production de logements sociaux. En fait, pas la construction nouvelle, mais le fait de repeindre, si je puis dire, des logements privés en logements sociaux, plutôt que de rénover des écoles. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 300 écoles à Paris qui ont un besoin urgent de rénovation. 300 écoles. Et pas qu'en matière climatique, d'ailleurs, y compris avec des sujets de sécurité. Et ça, c'est un choix qui a été fait. Deuxième, et je m'arrête là, deuxième exemple de choix qui a été fait. Je vous parlais du Ségur de la santé. En 2020, Jean Castex est Premier ministre, met 19 milliards d'euros sur table pour investir dans les hôpitaux. Tout à coup, on se dit, enfin, on va pouvoir rattraper le retard qui a été accumulé.
On se demande un peu où est passé cet argent aujourd'hui.
Je vais vous dire, il y a eu 3000 projets qui ont été financés. Moi, j'étais à l'époque au ministère des Finances, j'étais, entre guillemets, de l'autre côté de la table, plutôt du côté de ceux qui essayaient.
Serrer la vis.
Difficile. Mmh. Non pas de serrer la vis, mais au moins de tenir les comptes. Et à l'époque, on avait une doctrine qui était de dire, il faut peut-être moins de projets, mieux sélectionnés, de meilleure qualité, et en mettant le paquet sur ces projets-là. C'est pas la peine d'aller disperser, d'aller saupoudrer l'argent public. In fine, le choix a été fait de faire 3000 projets, et avec les exemples que je vous citais, des projets inaboutis au plan de l'adaptation au changement climatique. Et je parle pas du fait qu'en matière même sanitaire, certains projets étaient pas tout à fait pertinents. Donc c'est des choix collectifs, mais la bonne nouvelle, c'est que comme on a fait de mauvais choix par le passé, on peut faire de meilleurs choix à l'avenir aussi.
Oui, alors ça, c'est une version extrêmement optimiste que je salue et je me tourne vers vous, cher François Haeckel, parce que j'ai l'impression de l'avoir entendu, l'efficacité de l'euro dépensé, on l'a entendu mille fois. Mmh. Davidia nous dit, là, n'hésitez pas à réagir sur mon compte X, @legenra, mais nos dirigeants ne semblent pas connaître la notion de coût d'opportunité. Un euro est plus efficace dans l'adaptation que dans la lutte contre le réchauffement. Ce dont nous parle Ryan Nézard là, c'est un peu ça. C'est quelle est l'efficacité de l'euro dépensé? Où est-ce qu'on va mettre l'argent pour que ce soit efficace? Ça fait 20 ans que j'entends parler de ça, moi, François, et je pense que vous aussi.
Alors, c'est vrai qu'il y a un débat entre l'adaptation au changement climatique et l'atténuation du changement climatique, qui n'est pas simple. C'est vrai, l'atténuation du changement climatique, ça veut dire prendre des mesures de limitation des émissions de gaz à effet de serre, de sorte que, globalement, la planète se réchauffe moins. Sauf que la France n'est qu'un tout petit émetteur de gaz à effet de serre.
Moins de 1%,
on est plutôt bon, parce qu'on a une électricité qui est nucléaire, qui est décarboné, et ce qu'on peut faire n'a pas beaucoup d'effet sur le réchauffement de la planète. Alors qu'en revanche, quand on prend des mesures d'atténuation, ça a un effet direct sur notre bien-être, parce que ça permet en effet d'atténuer les conséquences négatives du réchauffement à travers les canicules, des événements climatiques extrêmes, etc. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire en matière d'atténuation. Nous avons collectivement, en tant que pays riche et développé, une responsabilité collective dans ces émissions de gaz à effet de serre et dans le réchauffement de la planète. Donc, même si notre action propre ne compte pas pour beaucoup dans l'ensemble aujourd'hui, il faut le faire, parce qu'on ne peut pas demander à des pays pauvres en développement de faire des efforts que nous pouvons faire. Donc, c'est une responsabilité morale, en réalité, que nous avons. Il y avait dans le rapport qui fait référence de Jean Pisani et Selma Mahfouz, je crois qu'il parlait d'impératif kantien. C'est-à-dire, on renvoie, c'est quasiment moral. Oui. Voilà. Donc, et je pense qu'il faut le faire, en effet. Oui. Nous avons cette responsabilité devant nos générations.
Pas l'autre. Moi, c'est ça qui m'étonne toujours.
Voilà, ça n'exclut pas l'autre. Mais c'est vrai que, dans certains cas, à certaines époques en France, certains politiques ont mis en avant cette responsabilité en matière d'atténuation pour dire ça doit passer en priorité, et puis l'adaptation au changement climatique, ça, c'est secondaire, faut pas trop en faire parce que on risque d'oublier notre responsabilité en matière d'atténuation. Donc en effet, on a eu ces comportements-là et malheureusement.
Aujourd'hui encore,
certains ont en effet tiennent ce discours.
Prenez l'exemple du Parlement européen. Je trouve que c'est très intéressant comme débat, parce que vous avez depuis maintenant un peu moins d'une dizaine d'années des accords commerciaux négociés par la Commission européenne et signés au nom des États, qui prévoient que le respect des accords de Paris de 2016, fameuse COP 21, est une condition pour la réciprocité et le libre-échange. Et l'exemple un peu typique, le premier exemple, c'était l'accord de partenariat avec le Japon, signé en 2018 ou 2019, je vous dis ça de mémoire. Et régulièrement au Parlement européen, il y a un débat, parce que le Parlement peut pas amender les accords commerciaux, mais il a un droit de veto. Et le Parlement, souvent, vous avez des groupes d'extrême droite qui disent « Non, mais il faut s'opposer à ces accords. Il faut pas ces clauses de réciprocité en matière d'écologie, où il faut pas les clauses miroirs. » Il faut s'opposer à ces accords, et de manière générale, ils ont d'ailleurs un rapport au libre-échange qui est plutôt protectionniste pour ce qui les concerne. Et qui, en même temps, vous disent aujourd'hui, il faut mettre la clim partout. Et donc, il y a une forme de contradiction, c'est-à-dire que, évidemment, il faut des politiques d'adaptation beaucoup plus ambitieuses en France, et on est très en retard sur la clim, mais comme sur d'autres sujets, comme sur la végétalisation. Au fond, on est en retard sur le droit à la fraîcheur de notre société, ça c'est vrai. Mais ça n'exclut pas le fait qu'on a une responsabilité, François Haeckel le disait, qui est historique, dans le réchauffement climatique, qui est lié à notre activité industriel depuis le 19e siècle et qu'on doit aussi participer.
Qu'on a délocalisé aussi très loin.
Y compris aujourd'hui avec l'empreinte. Avec l'empreinte qui fait qu'on n'émet pas sur notre sol,
oui.
Mais ce qu'on consomme sur notre sol est produit ailleurs et émet des émissions de gaz à effet de serre ailleurs sur la planète. Et donc aussi dans la politique commerciale des pays européens, c'est normal de tenir compte de cet impératif écologique. Il faut avancer avec les deux et c'est comme ça que notre société pourra enfin peut-être se réveiller et s'élever face à ce défi qu'est le changement climatique.
Moi, je trouve que ce que ça a montré, cette crise la semaine dernière aussi, c'est l'écart béant entre l'inefficacité parfois de l'action publique et l'entreprise qui, elle, tient debout. Et c'est un peu ce que dit Zoé Kipé, là, sur mon compte Twitter, votre interlocuteur qui parle du rôle de l'État. C'est la planification et faire les bons choix et digne des heures les plus sombres de l'histoire de l'URSS. Cher François, c'est pour vous.
Oui.
Parler liberté et entreprise privée. C'est vrai que c'est un peu ce qu'on a vu la semaine dernière. Alors, l'État, il est là pour édicter des normes, quand même, oui, et pour organiser l'action publique. Évidemment. Mais quand on voit des entreprises comme Pluxee, comme Google, qui ouvrent leurs portes ou d'autres qui ouvraient leurs portes à leurs salariés avec des salles dédiées avec la clim et venez, emmenez vos enfants, on va s'en occuper. J'ai trouvé le contraste saisissant, personnellement.
Les entreprises ont des objectifs relativement simples. L'objectif d'une entreprise, c'est de faire du bénéfice, c'est de faire des profits, voilà, pour ses actionnaires.
Oh, c'est et un peu plus ça, que ça, aujourd'hui.
Mais pour ça, elle est obligée de tenir compte de ce que veulent ses stakeholders, comme on
oui,
dit.
Oui, ses parties prenantes.
Et dans ces parties prenantes, il y a d'abord les clients. Donc, il faut satisfaire les clients. Donc, oui, les centres commerciaux, ils sont climatisés.
Oui.
Parce que ça attire les clients.
Et oui.
C'est très simple.
Et oui. C'est bon pour les soldes.
Voilà.
Pour les commerciaux aujourd'hui.
En famille.
Exactement.
Voilà.
Comme quoi, c'est un très bon moteur de bien-être général.
C'est un moteur de bien-être. Alors que l'État, lui, il a l'intérêt comme objectif l'intérêt général, mais l'intérêt général, c'est multidimensionnel. Ça prend plein de formes, c'est plein d'objectifs différents et éventuellement des objectifs contradictoires. C'est pour ça que la planification, enfin moi je pense qu'on n'y arrivera jamais, on n'y est jamais arrivé. La planification c'était simple, à une époque pendant les Trente Glorieuses, où il s'agissait de faire des poutrelles d'acier de même standard et d'imiter la technologie américaine. C'était très simple, donc on l'a fait pendant un certain nombre d'années, ça a marché. Notre programme nucléaire, dont on dit que c'est une très grande réussite.
La réussite de Pierre Messmer, notamment, qu'on cite beaucoup en ce moment.
Voilà, on oublie que, en fait, on a acheté la licence américaine de Westinghouse et que les centrales nucléaires françaises, c'est des copies conformes des centrales américaines.
Ah oui.
Voilà. Exactement. J'ai entendu un ancien président de NEF qui disait, dans chaque boulon d'une centrale nucléaire française, il y a le même boulon dans une centrale américaine. On n'a rien inventé, on a tout copié. Voilà. Donc ça, on s'est fait.
Voilà. Et ça a été très efficace en même temps.
Mais aujourd'hui, dans un monde où il faut innover, où il faut s'adapter à l'intelligence artificielle, etc., ça marche beaucoup moins. Voilà.
Oui. Bon, j'ai une question intéressante de Nolan Rimbaud, et c'est une question que j'ai beaucoup entendue, qui se demande ce qu'on a fait de l'argent de la journée de solidarité qui avait été mise en place après la canicule de 2003. Je le rappelle, 15 000 morts à l'époque, je veux dire, ça date. Jacques Chirac, sommet de la Terre de Rio en 2002, notre terre brûle et nous regardons ailleurs. 2003, 15 000 morts, on est en 2026, ça n'a pas avancé. Mais Ryan, qu'est-ce qu'on a fait de l'argent, des recettes de la journée de solidarité?
Ça finance les EHPAD et les aides à domicile, mais ça ne finance pas spécialement l'adaptation. Donc typiquement, le choix de mettre une climatisation dans un EHPAD, ce qui devrait relever du bon sens, relève en fait des directions
des EHPAD. Non, mais c'est ça aussi.
Soit public ou privé, et c'est pas, si vous voulez, c'est pas l'État. On peut imaginer le Big Brother, mais c'est pas l'État depuis un bureau à Bercy qui va décider de mettre une climatisation dans tel ou tel établissement. Encore une fois, il y a une responsabilité collective, et quand on est dirigeant d'un établissement public ou privé, on prend ses responsabilités. Juste un dernier point sur la planification et le rôle de l'État. Il y a quand même. Je vais défendre la puissance publique. Il y a quand même un rôle qui doit incomber. Alors, on dit l'État, ça peut être d'autres acteurs publics, mais qui doit être un rôle collectif, qui est le fait d'adapter les formations et d'adapter le contrôle qualité des entreprises. Par exemple, en matière de rénovation énergétique, vous avez besoin, pour rénover vos bâtiments, publics ou privés, d'avoir des gens qualifiés. Des gens formés pour se faire. Or ça commence dès l'école. Ça commence ensuite dans l'enseignement, qu'il soit professionnel, technologique, supérieur ou autre. Et ensuite, c'est tout au long de la vie avec l'organisation de la formation professionnelle. Vous ne pouvez pas le faire si vous n'avez pas une puissance publique. Deuxième exemple, parlez du contrôle qualité, la certification des entreprises qui font de la rénovation pour s'assurer que vous n'avez pas affaire à des fraudeurs, oui. Vous n'avez pas affaire à des gens qui n'ont pas, là encore, les qualifications, la formation. Ça aussi, ça doit relever d'une forme de puissance publique. Alors, on peut déléguer ça à une entreprise privée, mais il faut quand même qu'il y ait une réglementation. Donc, il y a quand même un socle minimal, si je puis dire, qui fait qu'on a besoin, pardon, je me fais l'avocat de la puissance publique, mais on a quand même besoin pour réussir la transition.
Il faut zéro État non plus. Oui. Simplement,
c'est
peut-être
important
simplement
de le rappeler. Après, l'État ne peut pas tout et ne doit pas tout, et clairement, les entreprises jouent aussi leur rôle.
Bon. Nathalie Janson nous a rejoint. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
On va avancer parce que l'État aussi a quand même plus beaucoup d'argent dans les caisses. Et on va parler de la dette justement avec ce rapport dont personne ne parlera. Là, toute la classe politique est occupée à se tirer dans les pattes pour savoir à qui la responsabilité dans la canicule. C'est le rapport annuel de la Banque des règlements internationaux. Alors pour rappeler à tout le monde ce qu'est la Banque des règlements internationaux, elle n'est pas connue du grand public, on en parle nous souvent sur BFM Business quand même, on reçoit ses dirigeants, c'est la banque centrale des banques centrales. C'est un peu comme ça qu'on l'appelle, Nathalie. C'est une institution extrêmement importante pour la régulation de la finance mondiale. Tous les grands argentiers de la planète consultent avec intérêt ce rapport annuel. Qu'est-ce qu'il nous dit ce rapport ? Cette année, il tire la sonnette d'alarme sur la dette publique. Grosso modo, il nous explique que le marché obligataire de la dette publique est de plus en plus fragile. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de hedge funds, de fonds spéculatifs, qui achètent de la dette privée publique avec effet de levier, et que ça peut swinguer très rapidement pour les États qui ne feraient pas ce qu'il faut. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça veut dire que nous, moi c'était mon édito ce matin, mais l'OAT française peut devenir le nouveau subprime ? Un pays très riche, normalement, septième puissance économique mondiale, très safe, on peut lever l'impôt, oui, sauf que on a des finances publiques à la dérive, on a un modèle social qui nous coûte très cher, on n'est pas loin d'un risque de crédit sur la banque de la Sécu aujourd'hui, on a un PIB qui stagne et des agences de notation qui nous disent de plus en plus que, bah, en France, lever l'impôt, ça devient un peu compliqué. Alors, l'OAT française, nouveau suprême ou pas ?
Alors, ça pourrait devenir, on peut oser la comparaison, en effet, si on a un problème...
Un peu provocatrice, je...
Voilà. Si on a un problème d'évaluation, parce qu'il faut se rappeler qu'en fait, l'essentiel de subprime, c'est pas tant des montages compliqués et très risqués, c'est le fait qu'ils étaient, ils n'étaient pas correctement évalués. En fait, il a été là, le nœud de la crise. C'est parce qu'il y a eu une
crédit noté triple A avec des petits morceaux pourris à l'intérieur.
Oui, c'est souvent le cas lorsque il y a des nouveaux instruments financiers, ce qui était le cas, les fameux CDO.
CDO Square, au cube, voilà, auquel plus personne ne comprenait rien.
Voilà, dans lequel on a logé des subprimes qui eux-mêmes étaient mal évalués. Ils auraient pu être correctement évalués, mais leur modèle de base, ils ont été agglutinés avec des prêts normaux, c'est-à-dire accordés à des prêts hypothécaires à des gens normaux. Et là, c'est pour ça qu'il s'en est suivi une crise. Aujourd'hui, en fait, il faut qu'on traite donc le problème de la dette française sous le même angle. C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement, il faut s'inquiéter d'une déconnexion entre la vraie valeur,
la notation,
la vraie valeur et la valeur de la dette française. Alors, il peut y avoir des sujets d'inquiétude parce qu'on a eu, alors plutôt en notre faveur, maintenant une réévaluation de ce qu'a pu être la croissance. Donc ça veut dire que si on réévalue la croissance, on peut
absolument
aussi se tromper dans l'autre sens.
De 2023 et 24, oui.
Voilà. Donc là, c'est plutôt à notre, effectivement, notre faveur. Mais voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème d'évaluation aussi dans l'autre sens ? Et on l'a déjà vu, puisque plusieurs fois, on a été surpris, entre guillemets, en tout cas le gouvernement, du montant du déficit public. Donc ça veut bien dire que ça marche dans les deux sens. Donc c'est surtout à ce niveau-là. Alors effectivement, la raison aussi pour laquelle on s'inquiète, c'est qu'il faut savoir que c'est les grands argentiers de ce monde, dont la BRI, qui a aussi favorisé ce qu'on appelle la centralisation au niveau des marchés des produits dérivés, avec ce qu'on appelle les chambres de compensation centralisées, qui ont donc mis le titre public au devant de la scène, puisque maintenant il est collatéral de tout. Donc, en effet, comme il est collatéral...
On rappelle ce qu'est un collatéral, voilà, pour ceux qui nous
alors
écoutent.
Alors, ça veut dire qu'au lieu d'emprunter directement
sur le marché... Un dépôt de
garantie,
en quelque sorte.
C'est-à-dire que moi, au lieu d'emprunter Nathalie Janson, et on va me faire une évaluation de quelle est ma note de crédit, ça, c'est ce qu'on faisait avant, oui, assez systématiquement, eh bien moi je vais venir emprunter, je vais amener avec moi une obligation de loi, une OAT à 10 ans, et je vais dire je vous la donne en garantie. Donc comme maintenant ce n'est plus moi qui suis l'objet de l'évaluation, mais cette OAT. Cette OAT étant pour le moment effectivement considérée comme relativement safe, oui, eh bien on va me prêter plus facilement et je bénéficie de meilleurs taux. Voilà, c'est ce qui s'est... Il faut savoir que depuis 2008, les marchés globalement sont sur ce type de pratique.
S'il rend plus stable.
Alors, c'est effectivement, c'était l'idée. On ne voulait plus effectivement de contractualisation gré à gré, ce qu'on appelle gré à gré, basé sur l'évaluation de l'autre, parce que c'est ce qui s'était passé avec, ça avait donné Lehman Brothers et oui, la surprise des
OTC, c'est-à-dire qu'une banque à l'autre,
exactement,
voilà, sans,
donc,
sans garantie.
Donc, comme on ne savait pas
coup,
sa position globale.
Quand une banque fait défaut, bah, voilà, ça tombe en domino derrière.
Donc, on a voulu, en fait, avoir un système plus lisible et oui, on s'est dit, on va les mettre dans des chambres de compensation et les chambres de compensation, elles fonctionnent essentiellement sur de la collatéralisation.
Bon, voilà. François Eckhall, est-ce que ça a stabilisé? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes inquiet, comme la BRI, de que la prochaine crise financière puisse venir des dettes publiques?
Alors c'est possible, oui. Alors, et si on prend le cas de la dette française, qui nous intéresse quand même plus particulièrement, elle est devenue hors de contrôle, au sens où, pour arriver simplement à la stabiliser en pourcentage du PIB, même pas en euros, il faut faire un effort qui est colossal, et qui, dans le contexte politique actuel français, on ne fera pas.
La dette est hors de contrôle, voilà, vous nous dites aujourd'hui, voilà, François Eckhall.
Les économistes disent généralement que pour la dette publique soit soutenable, il faut qu'on puisse montrer qu'on a un peu arrivé à la stabiliser, oui, à un certain horizon. Je pense qu'on ne peut pas montrer qu'on peut l'arriver, on n'y arrivera pas. Mais, par ailleurs, on emprunte encore très facilement. Oui. On emprunte à un taux d'intérêt. Le marqueur de cette incertitude, de ces risques, c'est l'écart de taux d'intérêt entre les obligations françaises ou italiennes ou espagnoles et allemandes supposées
sans risque. Ce qu'on appelle
le spread. Le spread. Ce spread, il a un peu bougé, mais il est très limité. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu dans les années 2011-2012. Pourquoi ? Parce que depuis cette époque, les marchés savent que la BCE est là, dans le paysage, oui, qu'elle a les moyens d'acheter en quantité illimitée les titres d'un pays comme le public, d'un pays comme la France, l'Espagne, l'Italie, etc. Et donc, elle peut casser à tout moment n'importe quel mouvement de hausse des taux d'intérêt. Voilà. Et par ailleurs, la France est too big to fail. On n'imagine pas aujourd'hui un défaut de paiement que la BCE laisse la France faire défaut. Et donc, ce spread, il mesure la probabilité d'un défaut de paiement. Cette probabilité, on pourra dire, elle est nulle. Donc, le spread, il devrait être de zéro. Il n'est pas totalement, parce que, en fait, et un jour, les marchés se rappelleront peut-être que la BCE ne peut pas intervenir automatiquement. Elle ne peut pas, certes, d'un côté, un défaut de la France, c'est une catastrophe, mais d'un autre côté, une dette publique française qui augmente indéfiniment, qui bientôt dépassera celle de l'Italie, l'Italie encore devant nous, oui, celle de la Grèce, oui, qui va continuer.
Enfin, on approche dangereusement les 120%, là, hein,
on
fait
des projections à politique inchangée dans lesquelles elle monte à 200% du PIB en 2040. Hein. Donc, la BCE ne peut pas non plus accepter ça. Et le jour où les marchés se diront c'est pas possible, elle n'interviendra pas. À ce moment-là, en effet, le spread augmentera.
On sera attaqué.
Et à ce moment-là, il y aura un problème.
Et avec des fonds spéculatifs de plus en plus grand nombre sur le marché. Ryan, un dernier mot.
Je sais pas si on a le temps de développer ou...
On a deux minutes.
Non, mais le risque aujourd'hui sur la dette française, c'est moins celui, en effet, d'un arrêt cardiaque soudain. C'est plus celui d'un étouffement, en fait, progressif. C'est-à-dire que cette dette aujourd'hui est plus exactement la charge de la dette. C'est-à-dire ce que le pays rembourse chaque année au titre des intérêts à ses créanciers, est en train de devenir quelque chose qui évince totalement nos priorités. En 2026, l'évaluation, c'est qu'à peu près 2,5% de notre richesse nationale sera consacrée à rembourser les intérêts de la dette.
77 milliards en 5 ans, en quelques années, depuis le Covid, on est passé de 30-35 à 77 milliards, bientôt 100 milliards en 2029.
Exactement. Et donc, d'ores et déjà, on paye davantage pour rembourser les intérêts que pour investir dans l'école ou dans la défense. Vous l'avez dit, en 2029, la dette représentera une charge de plus de 100 milliards d'euros, assez mécaniquement, parce qu'il va falloir refinancer la dette Covid, celle qui a été levée pendant la crise sanitaire, avec des taux beaucoup plus élevés aujourd'hui qu'hier. Mais en réalité, cet argent, il ne sera pas investi dans l'école, il ne sera pas investi dans la santé, il ne sera pas investi dans l'effort de défense, ni dans l'écologie dont on parlait tout à l'heure.
Et, oui.
Et tout ça dure depuis 50 ans. Ça fait 50 ans qu'on est en déficit. Je vous demandais si on avait un peu le temps, parce que j'aimerais vous raconter une anecdote sur les retraites.
Rapidement.
Ouais, je vais essayer rapidement.
Bon alors, on va couper. Allez, coupure pub et puis on prend l'anecdote, le teasing de l'anecdote des retraites juste après la coupure pub. Restez avec nous. Ça vaut son pesant de cacahuètes. À tout de suite.